franceinter.fr.
Merci d'être à l'écoute de France Inter, il est 13h30, c'est la marche de l'histoire, et chez nous à France Inter, The Artist, c'est Jean Lebrun.
Bonjour Patrick Boyer, ben oui, on va parler de la période dont traite le film The Artist, parce que le cadavre du muet, c'est un beau cadavre, mais il bouge encore.
Bonjour chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le passage du muet au parlant.
On va pouvoir commencer ?
Je suis prêt.
Allons-y. Ça tourne ! Allez, envoyez la neige. Plus fort. Madeleine, à toi. Tu es seul dans la rue. Tu as peur. Tu laisses ce bruit. Allez, la pâche, à toi. Madeleine, défends-toi. La pâche, lève ton couteau. T'as pris ton argent. Tu ne sais plus que faire. C'est la nuit. Le vent souffle. Et tu es toute seule.
C'était le zénith du cinéma muet. Le silence était d'or, aurait dit René Clair. Le film The Artist, qui est actuellement sur les écrans, tente une immersion dans l'atmosphère de ce milieu des années 1920 quand soudain fait irruption le parlant. Le cinéma étant un art de mouvement, il fallait s'attendre à ce qu'il se détruise en marchant. La destruction a été coûteuse, des stars sont tombées au champ d'honneur, c'est le thème du film The Artist. Pire, la caméra qu'Annabelle Gans avait rendue aérienne se retrouve figée au sol, aux ordres de l'ingénieur du son omnipotent, un progrès technique peut entraîner une régression esthétique. Mais le mouvement se prouve aussi en marchant. Très vite, le passage au parlant va permettre l'ouverture de nouveaux genres. Et paradoxalement, le muet finira même par retrouver une place, parce que c'est une vérité qu'on redécouvre. Le regard peut se passer de mots, et il en dit même souvent plus long que les mots. Pour évoquer cette déchirure décisive, cette période de transition, vous dites entre chien et loup, Noël Herpe. Bonjour Noël Herpe.
Bonjour.
Alors on va rester muet sur votre journal en ruine qui vient de paraître chez Gallimard, parce que c'est plein de secrets intimes.
Le silence est d'or en effet.
Oui. On va parler de votre thèse sur René Clair. Le silence est d'or, c'est c'est un film de René Clair de 1930. Et puis de votre journal d'un cinéphile que vous allez feuilleter avec nous, et on va aller de paradoxe en paradoxe. Le cinéma, c'est une histoire de paradoxe. Premier paradoxe, le parlant a été imaginé avant le cinéma muet.
Dès 1892, soit 3 ans avant la naissance du cinématographe Lumière, la parole fut associée à l'image en mouvement à l'aide du chronophotographe de Londres et du phonoscope à disque de Demény. Grâce à 18 images enregistrées avec le chronophotographe, l'appareil reconstitue un mouvement, celui des lèvres, mouvement de lèvres en train de prononcer une courte phrase. Ainsi, les sourds muets purent-ils lire sur les lèvres de l'acteur « Vive la France » et les sourdes muettes « Je vous aime ».
Oui, d'ailleurs, ça faisait parfois des problèmes parce que les muets arrivaient parfois à lire aussi des obscénités que disaient les acteurs pendant le tournage des films, croyant qu'on ne les comprendrait pas et seuls les sourds muets comprenaient. Ça faisait parfois des scandales. Pour être plus sérieux, effectivement, le muet était très parlant. Il parlait beaucoup.
D'abord, c'est le deuxième paradoxe.
Oui, c'est le deuxième paradoxe. D'abord, on parlait dans les studios. On pouvait parler dans les studios, évidemment, puisque la caméra n'était pas enregistreuse. Et par exemple, Robert Floret a décrit de manière très amusante la manière dont Louis Feuillade racontait l'histoire au fur et à mesure, lui disait « tu fais ceci, tu fais cela, tu lui dis quelque chose de bien tapé, tu es terrifié, etc. » Il faisait une sorte de playback dans sa direction d'acteur qui se transcrivait, évidemment, dans la parole muette de ses interprètes. Hein. C'est une sorte d'effet ventriloque du réalisateur de films muets.
Mais on parlait avec ses jambes, mais on répondait avec ses mains.
Évidemment, l'acteur muet était obligé d'avoir une certaine gestuelle, mais en même temps, on a cherché très vite à compenser cette mutité par différentes expériences, notamment Léon Gaumont, qui a été vraiment un artisan du pré-cinéma parlant, en créant un chronophotographe, par exemple, un cinéphone qui était censé médiatiser, permettre aux spectateurs parisiens de découvrir les performances des acteurs de théâtre.
Ce dont vous parlez il y a un instant, Simone Dubreuil.
C'est ça, exactement.
C'était une archive de 63.
Donc ça, il a il a un peu échoué dans cette entreprise, mais il y a eu d'autres tentatives qui étaient aussi liées à la projection. C'est-à-dire qu'on essayait par tous les moyens de combler ce manque, avec notamment un bonimenteur ou qui venait raconter l'histoire au fur et à mesure. C'est ce que montre d'ailleurs René Clair très bien dans Le silence est d'or. Et d'une certaine manière, c'est ce que refera à sa manière Sacha Guitry dans le roman d'un tricheur.
Donc la salle est bruyante et la production est bavarde. Et la salle bruyante, je ne sais pas, racontez-nous le Gaumont Palace, 3500 places, place Clichy à Paris.
Ah bah oui, en tout cas dans la période du cinéma primitif, on commentait les films, effectivement. On les assaisonnait de commentaires, d'interjections. On prévenait l'héroïne des Mystères de New York qu'il allait se passer quelque chose d'horrible pour elle. Il y avait effectivement toute une rumeur sonore qui accompagnait le film, mais qui a vite été recouverte quand même par la musique, hein, car il faut quand même préciser qu'à partir des années 1910, mais surtout 1920, les films sont accompagnés de musique. On compose même des musiques exprès pour les films. Ça a été le cas pour Métropolis, qu'on redécouvre actuellement à la Cinémathèque française. Donc, il y a vraiment cette idée que le cinéma est un art lié à la musique, que ce sont deux arts qui ont partie liée. Et donc, la musique est très présente. Mais on commence, à partir de 1925, à penser à l'enregistrer sur disque. Et donc, c'est déjà l'arrivée un peu du cinéma sonore.
Oui, parce que le son ne va pas être incorporé tout de suite.
Non.
À la pellicule, il y aura longtemps dissociation, même en 1927. Alors nous sommes maintenant justement à cette date clé. On va utiliser le film « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen et de Gene Kelly. C'est un film de 1952. Et nous sommes dans ce film un quart de siècle avant le tournage. Et nous sommes à une réception chez le producteur, M. Simpson.
Encore un film, on vient d'en voir un.
Il n'y a pas de réception sans film, à Hollywood, c'est la règle.
Silence, je vous prie, je vous ai ménagé quelques surprises pour vous distraire. Asseyez-vous tous, asseyez-vous. Je crois que vous allez rire à gorge déployée. Un type complètement fou depuis des mois déjà me persécute. Le truc est en état de marche, Sam?
Tout est prêt, Monsieur Simpson.
Ok, roulez.
Bonjour à tous. Ceci est une démonstration de cinéma parlant. Regardez, c'est une image de moi et je vous parle. Regardez comme mes lèvres et les sons qui correspondent à leur mouvement sont synchronisés.
Il y a sûrement quelqu'un qui parle derrière l'écran.
Ne vous cachez pas derrière l'écran, Monsieur Simpson.
Non, je suis bien là.
Plan des préoccupations des inventeurs et des pionniers. Ma voix a été gravée sur un disque. C'est un film parlant.
Eh bien,
ce n'est qu'un jouet.
C'est à hurler.
C'est vulgaire.
Est-ce que vous croyez que ça prendra cette invention?
Sans doute, les frères Warner viennent d'entreprendre un film 100% parlant avec ce truc-là. Le chanteur de jazz. Ils vont se ruiner.
Tout, 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 goodbye. Tout, 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 don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me.
Paul Johnson dans Le chanteur de jazz. En fait, l'année d'avant, 26, les Warner avaient produit Don Juan. Mais ni Don Juan, ni le chanteur de jazz ne sont 100% parlants, en fait. Hein.
Non, parce qu'en fait, on avait commencé à privilégier un système qui était le Vitaphone, qui était un système d'enregistrement sur disque. Donc c'était un peu compliqué parce qu'on passait à la fois le disque et le film. Donc ça ne permettait que de diffuser de la musique. Et il y a une scène dialoguée dans Le chanteur de jazz, mais ça restait grosso modo un film muet, vaguement sonorisé. D'ailleurs, le Vitaphone a été commercialisé par les frères Warner à un moment où ils étaient un peu en perte de vitesse et ils avaient envie de relancer le marché. Mais ce procédé s'est avéré très vite peu viable. Et il a été concurrencé par un procédé allemand qui était le procédé ensuite qui a été labellisé sous le sigle Western Electric, mais venu d'Allemagne, un procédé beaucoup plus performant qui était le procédé Tobis Klang Film et qui était un procédé de piste optique enregistré directement à même la pellicule.
Alors c'est en Allemagne et aux États-Unis que les progrès sont les plus rapides. Il faudrait en faire une histoire mois par mois. Nous sommes dans la suite de Chantons sous la pluie, quelques semaines après l'épisode de la réception, et cette fois dans le studio de M. Simpson.
Elle repousse les limites de l'horreur. Parfait, excellent. Tu l'embrasses, Don. C'est ça. Encore. Formidable.
Arrêtez, Dexter.
Bonjour, Monsieur Simpson.
Ça marche sur des roulettes.
Oui, rangez donc vos roulettes.
Hein?
Je ferme le studio pour plusieurs semaines.
Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, que se passe-t-il, Armand?
Je vous ai dit que le parlant était une menace. Personne n'a seulement daigné m'écouter. Ça a fait sensation. Le public en réclame, en demande.
Qu'est-ce qu'il demande?
Des films parlants.
Oh, ce n'est qu'un caprice.
Et quel caprice? Nous aurions bien dû l'avoir dans ce studio.
Don, mettons-nous à l'ouvrage. Nous partons du pied droit. Nous allons tourner le duelliste chevaleresque en version parlant.
Voyons, pas tant de hâte, monsieur Simpson. Le film parlant, je crois que vous devriez attendre.
Tous les studios se hâtent pour ne pas louper le coche. Dans les salles, on installe en vitesse le nouvel équipement. Nous ne pouvons pas rester à la traîne.
Mais nous ne connaissons rien à cette nouvelle technique.
Que voulez-vous connaître? C'est la même chose. Et vous ferez ce que vous faisiez. Vous n'aurez qu'à ajouter un texte à dire.
Oui.
Croyez-moi, ça va sûrement faire sensation. Lamont et Lockwood, ils parlent.
Tout le monde parle, bien sûr. C'est une évidence.
Ça se fait très vite parce qu'il y a une possibilité de concentration financière. On est avant la crise de 1929. Les investissements aux États-Unis sont très rapides.
Oui, et donc du coup, des consortiums se créent autour de cette nouvelle technique, avec des nouvelles sociétés qui fusionnent avec d'autres. On ramasse des débris d'anciennes sociétés comme la Triangle, on va fusionner, il va y avoir la naissance de la RKO par exemple. Et puis on va essayer de conquérir le marché européen, et il va y avoir une guerre de brevets à peu près équivalente à la guerre des brevets qui avait eu lieu du temps d'Edison, qui va être âpre et assez longue. Et finalement, on va se partager le monde entre plusieurs zones d'influence. La zone d'influence pour le brevet Vitaphone, qui sera plutôt Amérique du Nord, et la zone d'influence européenne pour le brevet Tobis, la France étant un peu prise entre l'arbre et l'écorce.
À propos de débris, les acteurs du duo historique Lockwood et Lamont sont les personnages du film Chantant sous la pluie, s'inquiètent. Il est vrai que la jeune première, on l'a entendu très brièvement, mais ça suffit, a une voix de canard.
Oui, ça a été le problème pour pas mal d'acteurs du muet qui ont été démonétisés. Qui avaient souvent des accents d'origine étrangère. Alors, par exemple, il y a le cas du grand acteur d'origine russe Mozdjoukine, qui a été un grand acteur du muet en France et dont la carrière va sombrer avec l'arrivée du parlant. Il va y avoir d'autres acteurs, Nicolas Rimsky par exemple, qui va devenir chauffeur de taxi, qui est un acteur français d'origine russe. Donc il y a le problème des accents, il y a le problème des voix et il y a le problème
Le jeune premier viril qui n'a qu'un filet de voix, par exemple.
Ça, par exemple. Et puis il y a des acteurs, tout d'un coup, l'arrivée d'une nouvelle génération d'acteurs qui viennent de théâtre. C'est-à-dire qu'un peu en catastrophe, surtout en France, on va aller chercher des acteurs de la comédie française, du boulevard, et on va voir émerger... aux États-Unis, on voit vraiment émerger des jeunes acteurs à ce moment-là. On peut dire qu'en France, c'est plutôt des acteurs déjà qui ont 40 ans, qui ont déjà une certaine bouteille, et on va chercher des gens qui ont déjà l'expérience de la voix.
Aux États-Unis, certains ne résistent pas ou s'isolent. Buster Keaton, qu'on va trouver plus tard dans Sunset Boulevard, qui
absolument
tient un rôle de joueur de cartes
qui est une muet, sorte de...
qui assiste sans rien dire à sa déchéance.
Tout à fait, c'est une sorte de d'oraison funèbre aux vieilles stars du muet. Il y a aussi Gloria Swanson, Stroheim, parce que la fin du muet, c'est aussi la fin d'un certain cinéma. Hein, vous l'avez dit bien, c'est effectivement une concentration économique qui se met en place. C'est le règne des producteurs. Hein. C'est un moment où finalement, les grands auteurs-acteurs qui étaient Stroheim, qui étaient Fairbanks, qui étaient Chaplin, vont se retrouver un peu marginalisés par rapport au consortium qui se met en place. Et c'est aussi la fin d'une certaine indépendance esthétique de l'auteur hollywoodien. Et je pense que c'est le fait d'observer ce phénomène qui a fait très peur aux auteurs français qui se sont dit, oulala, on va se retrouver nous aussi manger tout cru par un système qui va faire prévaloir l'économique sur l'esthétique.
Mais même ceux qui vont résister, Charlie Chaplin va s'adapter. Il a un regard attristé sur la disparition du premier moment de l'art cinématographique, à moins que l'art muet soit un art distinct de celui qui va venir après.
De toute façon, c'est pas compliqué. Pour la plupart des grands intellectuels et des artistes de la fin du muet, le grand art, c'est le cinéma muet. Le cinéma muet, c'est un pléonasme. Le cinéma est muet. Hein. Pour les Dreyer, pour les Einstein, pour les Chaplin, pour les Pudovkin, pour les King Vidor, qui à ce moment-là sont tous vent debout contre le cinéma parlant, la fin du cinéma muet, c'est la fin du cinéma. Car le langage des images silencieuses avait une dimension onirique, avait une dimension fantomatique, avait une dimension poétique, qu'il va forcément perdre avec le réalisme apporté par la parole. Je crois que c'est ça qui fait très peur. Il y a quelque chose, il y a presque une sorte de tabou presque sexuel dans la peur de la parole. La parole, c'est tomber dans l'incarnation, c'est tomber dans la vulgarité, c'est déchoir. Alors que le silence, c'est le rêve.
Une larme coule sur le visage, on se croit dans un film de Dreyer.
Pas du tout.
Non, mais ceci dit, en chanson, la nostalgie du muet.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère. Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 la revoilà. La salle, plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Du muet au parlant aujourd'hui, comme dans le film Vie artiste, mais avec Noël Herp, qui a publié notamment Journal en ruine. Alors, la première impression, pour un historien du cinéma comme vous, c'est que le passage au parlant, osons le dire, c'est une régression.
Oui, c'est considéré comme une régression. Par exemple, il y a un texte célèbre d'Alexandre Arnoux qui ouvre la revue Pour vous, qui est une grande revue du début des années 30, et qui dit avoir tant espéré, tant travaillé pour en revenir à cette vieille esclavage de la parole, à une chose aussi éculée que le théâtre. Donc c'était ça aussi, c'était la peur du tout économique, mais c'était aussi la peur du tout théâtral.
C'est-à-dire c'est au théâtre ce soir, c'est une vieille émission de télévision, mais le titre pourrait valoir.
Oui.
On plante la caméra devant des comédies de boulevard.
Oui, c'est ce qui se passe en France, en tout cas, parce qu'on n'imagine pas que le cinéma parlant puisse servir à autre chose. Enfin, il y a quelques personnes qui vont s'élever la contre, mais au contraire des États-Unis, on crée des genres nouveaux, on crée la comédie musicale, on crée le film noir, on crée des genres spécifiques liés au film parlant. En France, dans un premier temps, la production va être essentiellement de tourner des films tirés du théâtre, et en version multiple en plus, parce qu'on n'avait pas encore trouvé le doublage. Donc, on travaille à des cadences absolument ahurissantes, jour et nuit, pour faire 5-6 versions d'une pièce d'Henri Bataille ou d'Henri Bernstein très vite. La Paramount s'implante en France et va construire des studios et c'est là qu'on va faire Marius de Pagnol, dont on va même faire une version suédoise. Mais cela dit, qui sera à peu près le seul film valable de cette production de ce qu'on a appelé le théâtre en conserve ou le théâtre mécanique.
Théâtre filmé, boîte de conserve pour conserver des mélodrames psychologiques. Il n'y a plus d'extérieur. La caméra, elle est figée, là. Elle doit être insonorisée, on doit l'entourer de beaucoup de protection.
Oui, absolument. Il y a aussi ce
on
problème.
On a la caméra d'Amel Gans qui se baladait dans une boule de neige dans la bataille de Brienne dans Napoléon.
Tout à fait, dans la mesure où la caméra doit être insonorisée, donc elle est dans une sorte de caisson insonore. On ne peut plus tourner en extérieur. On tournait beaucoup plus en extérieur, en fait, dans le cinéma muet, mais on est obligé de tourner en studio. On ne peut plus faire de mouvement de caméra. L'acteur ne doit pas parler trop fort, et c'est la fameuse réplique de l'ingénieur du son de Paramount qui dit la voix de monsieur Rému fait péter le microphone et à quoi Rému répond écoutez, on peut changer l'ingénieur du son mais on ne change pas monsieur Rému.
Vous me direz quand même qu'en France la transition se fait beaucoup plus lentement qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis puisque en 1935 il y a seulement la moitié des salles qui sont équipés. Les directeurs de salles veulent garder la liberté d'organiser leurs séances comme avant ou ils trouvent que ça coûte trop cher l'équipement en cinéma parlant.
Je crois qu'on attend de voir, parce que autant il y a une frénésie de films parlants en Angleterre, aux États-Unis, et où les gens se précipitent pour voir des films sonores et parlants, autant en France, on attend de voir, les exploitants ne se pressent pas trop, il y a ce côté peut-être un peu frileux du marché français, et c'est vrai que jusqu'en 1934, par exemple, Pierre Billard raconte dans son Histoire du cinéma français qu'à Toulouse, on avait encore des salles de patronage très importantes qui continuaient à montrer des films muets, et d'ailleurs, les films en 16 mm, les films d'amateurs, jusqu'en 1940-50, étaient toujours muets, d'ailleurs, c'est ce qu'on oublie trop souvent. Donc, cela dit, ce phénomène n'est pas particulièrement français. On peut dire qu'en Russie, par exemple, on a un film de Mikhail Rom, Boule de Suif, en 34, qui est encore muet. Et on a des films de Mizoguchi de 34 qui sont encore muets. Donc, il n'y a pas que la France qui est en retard par rapport à ça.
Transition, d'un point de vue esthétique, soudure, faite par un homme exemplaire. C'est votre sujet de thèse, René Clair, sur lequel on va s'attarder un instant. Alors, c'est un grand du cinéma muet.
Oui.
Il porte beaucoup d'espoir des producteurs du muet, Entr'acte.
Oui, tout à fait. C'est un grand nom du cinéma muet et c'est quelqu'un qui représente finalement une évolution du cinéma muet à la fin des années 20, c'est-à-dire une tendance à anticiper sur la parole et à intégrer déjà la parole et le son à l'intérieur du silence.
Et en 1930, il va opérer avec un film qui s'appelle « Sous les toits de Paris », ce que vous appelez, Noël Herp, une révolution conservatrice.
« Sous les toits de Paris » est très loin de mes autres films, à cause de la nécessité où j'étais de me servir du son. J'ai essayé d'incorporer le thème d'une chanson dans l'action d'un récit sans importance.
Allez, à l'avant, maestro. Quand elle eut 20 ans, sa vieille maman lui dit un jour tendrement dans notre logement, j'ai peiné souvent pour t'élever, fallait de l'argent. Mais t'as compris un peu plus chaque jour ce que c'est le bonheur, mon amour.
Sous les toits de Paris arrive trop tôt ou trop tard. Quelques mois auparavant, il aurait succédé au film uniquement sonore. Quelques années plus tard, il aurait bénéficié de la réaction contre les excès du parlant.
Quel accueil reçut-il ?
Quand il sort, la critique et le public français semblent encore désireux d'entendre parler avec abondance. Nos recherches sur les rapports du son et de l'image passent inaperçues. Je suis découragé, car j'ai l'impression d'avoir raison et je regrette de voir le cinéma s'engager dans la voie du théâtre filmé.
Et vous apprenez le succès triomphal que Sous les toits de Paris vient de remporter à Berlin. Que s'était-il passé ?
Il s'est passé ce phénomène très simple, que les Allemands ont vu un plus grand nombre de films parlants que les Français à cette époque. Déjà gorgés de paroles, ils apprécient un dialogue réduit au minimum, qu'ils comprennent aisément, bien qu'il ne soit pas dans leur langue. Et de plus, le film leur montre une image de Paris, d'un Paris qu'ils aiment, et qui à cette époque semblait encore une nouveauté pour l'écran.
Alors c'est assez amusant parce qu'en fait à cette époque-là, les cinéastes et les gens qui étaient interviewés à la radio souvent lisaient leurs propres textes, en l'occurrence René Clair lit ses propres mémoires sous le micro de Charansol. Alors effectivement c'est intéressant cette position de René Clair, en effet innovation conservatrice, puisque au moment où on est gorgé de talkies, de films où on fait entendre le bruit de l'eau qui coule ou le bruit d'une vaisselle cassée qui s'apparente aux chutes du Niagara ou au bruit d'un train en marche, parce qu'évidemment le fait de mettre le bruit près du micro donne une consistance excessive, il y a une sorte de fétichisation du son, pour le son, René Clair lui dit non, c'est pas la peine, il faut chercher au contraire la non-coïncidence de l'image et du son. C'est d'ailleurs une position qui était aussi celle d'Einstein, dans son fameux manifeste de la même époque, il faut essayer de séparer ces deux instances, faire en sorte que l'image et le son ne disent pas la même chose. Donc dans Sous les toits de Paris, il va se livrer à un certain nombre d'exercices théoriques tout à fait ingénieux, par exemple en faisant se disputer un homme et une femme dans une chambre plongée dans l'obscurité, ou à l'inverse, on va filmer un dialogue à travers la vitre d'un café sans entendre ce que disent les personnages. Donc chercher en quelque sorte à introduire une sorte d'ironie par rapport au son et au dialogue, à les tenir à distance et à empêcher justement l'espèce d'identification réaliste qu'aurait pu autoriser le parlant.
Innovation conservatrice, ça veut dire aussi faire le portrait, on n'a pas raconté le thème du film, d'un chanteur de rue, c'est un métier qui va disparaître. Albert Préjean le tient, 10 ans ou 15 ans après, le métier aura disparu, mais il y est attaché à cette tradition, comme à la tradition du muet, René Clair.
Oui, parce que je pense qu'évidemment la nostalgie du muet va avec la nostalgie tout court. Il est certain que défendre le cinéma muet en 1930, ça a une signification politique. Ça veut dire défendre une certaine idée de la France, comme dirait l'autre, une France qui n'existe plus que dans les mémoires, que déjà René Clair défendait dans Un chapeau de paille d'Italie, dans ses derniers films muets. Donc cette idée d'une tradition française qui est évidemment menacée par l'arrivée du cinéma parlant, parce que, enfin, elle est à la fois menacée parce que c'est la peur de la tour de Babel, d'une espèce de confusion des langues liée à cette pratique des versions multiples dont j'ai parlé, et en même temps on se dit que le cinéma parlant peut permettre de réaffirmer une identité française, et c'est ce que va faire René Clair, et c'est pour ça que ce film, qui n'a pas eu beaucoup de succès en France parce qu'il n'utilisait pas beaucoup le dialogue et le théâtre filmé, a eu un énorme succès à l'étranger parce que c'était un peu la carte postale de la France.
Et puis parce qu'en Allemagne, où on était très en avance dans ce domaine comme aux États-Unis, on était déjà gorgé de paroles. On pourrait dire que René Clair, c'est le retour du récit, de la simple narration, alors que le muet, c'était le tragique des personnages en lévitation, des yeux qui coulaient.
C'est le retour au classicisme.
Silencieux.
Oui, c'est le retour à un certain classicisme. Car René Clair, malgré qu'il en est, va quand même ramener le cinéma français sous le signe du réalisme, de ce qu'on appellera plus tard le réalisme poétique. Le cinéma muet était un cinéma qui permettait une certaine outrance fantastique, qui avait permis l'expressionnisme, qui avait permis l'impressionnisme français. Le cinéma parlant va amener le retour à une vision populiste, qui sera plus tard celle de Marcel Carnet, de Jean Renoir. Donc, malgré tout, René Clair, même s'il était réactionnaire et nostalgique, s'il peut paraître réactionnaire et nostalgique dans sa vision, a permis au cinéma d'évoluer vers ce réalisme.
Alors, il y a les innovations conservatrices qui suivent le passage du muet au parlant, comme celle de René Clair, et il y a les innovations tout court, la création de nouveaux genres, dont le genre musical.
Ce film est une pièce de musée. J'ai ma place au musée.
C'était mauvais pour le son. Il faut réussir à améliorer la technique
d'enregistrement. Non, ce n'est pas ça. Écoutez, j'ai compris enfin la vérité. Je ne suis pas un acteur. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai fait que des grimaces. Je suis fini.
Mais c'est évident. Avec ta silhouette et ta prestance, je te vois ramasseur de mégots ou cireur de chaussures.
Marchand de cacahuètes.
Chiffonnier.
Ou tondeur de chiens.
Ou pire encore, revenir au music-hall.
Padam, papam, papam. Mangeons des merleux s'il n'y a pas de grive. On la saute rudement, mais faut bien qu'on vive.
Oui, voilà ce que j'aurais dû faire si ça pouvait les séduire.
Eh bien, faites-le alors.
Quoi?
Faites un film musical.
Film musical? Oui.
quelques bonnes chansons, des numéros de danse, les mauvaises scènes, on les remplace par d'autres.
Et tu as gagné. L'expérience doit être tentée. Le duelliste chevaleresque est un film musical. Et que ça sonne.
Alléluia.
Broadway rhythm, it's got me everybody sing and dance.
Gotta dance. Et c'est reparti à la destruction du muet créatrice de richesses.
Oui, c'est ce qu'on voit bien dans Vie artiste, d'ailleurs, qui est un film très, très passionnant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'acteur du muet, style Douglas Fairbanks, hein, il est un peu inspiré de ce personnage, qui disparaît avec le parlant, va se régénérer grâce à un nouveau genre, le film de claquettes, où après avoir été Fairbanks, il devient Fred Astaire. Hein. C'est un peu une vision utopique, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Il y a eu vraiment l'émergence de nouveaux artistes à travers les nouveaux genres qu'ils ont créés. Hein.
Mais le muet va ensuite sans cesse être redécouvert. Il est recouvert et on va le redécouvrir.
Oui, car je crois, moi, ma thèse, c'est un peu que le cinéma français, par exemple, est resté dans la nostalgie du muet, au moins jusqu'à la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, la vraie retour de la Nouvelle Vague, c'est un moment où, même si Truffaut, Romère et les autres étaient imprégnés de cinéma muet grâce à la fréquentation de la Cinémathèque française, ils ont dit stop, arrêtons cette nostalgie du muet. Il y a un article d'Éric Romère, par exemple, dans les Cahiers du cinéma, pour un cinéma parlant dans les années 50, parce qu'on considérait que le cinéma n'était pas encore devenu parlant. Et de fait, on va prendre pour modèle des gens comme Renoir, comme Pagnol, qui, eux, avaient accepté sans complexe la parole et avaient accepté son réalisme. Et c'est vrai que cette nostalgie, elle a couru très longtemps. On la retrouve aujourd'hui encore chez des cinéastes comme Yoseliani, par exemple, dont la poésie est faite d'un attachement au silence, mais aussi chez Coris Maki, qui a fait
Avant Azanavicius, l'auteur de Vie artiste, un film entièrement muet, c'était Juha, en 1998.
Absolument, qui était le remake d'un film muet. Donc, cette nostalgie du muet, elle existe encore.
Et si je vous faisais parler non plus comme un cinéphile, journal d'un cinéphile 2009, mais de manière plus intime, journal en ruine, Gallimard, vous êtes convaincu, Noël Herp, que par la vue du vent qui court dans les herbes, une larme sur un visage, un regard, beaucoup plus de choses passent que par les mots.
Ah oui, j'en suis persuadé. Je pense que l'essentiel ne se dit pas par la parole. J'ai même réalisé un film qui s'appelle C'est l'homme, où j'ai essayé d'exprimer aussi cette dimension, refuser le discours. Car je crois que le cinéma français, notamment aujourd'hui, se base trop sur le discours, sur l'explicite et sur l'explication de texte. Il nous dit toujours ce qu'il faut penser des personnages, alors qu'il devrait plus avoir confiance dans le silence.
On demande aux spectateurs du muet d'être actifs. Ils devaient imaginer la voix.
Oui.
Des personnages qui se dessinaient sur les écrans. On demande aux auditeurs de France Inter d'être actifs. Ils peuvent imaginer nos trombines, ils peuvent nous podcaster, ils peuvent poster tous leurs commentaires sur notre site. L'émission a été préparée par Meryl Moneghetti, Franck Olivard, Frédéric Martin, la réalisation Jacques Sigal et à la technique Patrick Henry et Nicolas Slimani.